Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
De votre magazine Un jour une histoire qui s'intéresse aujourd'hui à la conférence de Berlin qui s'est tenue du 15 novembre 1884 à Berlin et qui s'est terminée le 26 février 1885 à l'initiative du Portugal et organisée par Bismarck. Qui était membre participant et je dirais même qui ont participé exactement à cette conférence, avec quel but et quelles sont les résolutions? Nous aurons la réponse avec notre invité. Il s'agit du professeur Bob Bobutaka. Il est professeur à l'Institut National des Statistiques et également à l'Université de Kinshasa. Voilà donc pour le menu de cette émission. À la présentation, Pamela Mounazomoilou, la prise de son et de Polydor Basunga sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. La conférence de Berlin marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Aussi connue comme la conférence de l'Afrique de l'Ouest, elle commença le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiative du Portugal et organisée par Bismarck, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, Norvège, ainsi que les États-Unis y participèrent. Une conférence antérieure fit commencer le débat sur la partition des Congos. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne de signatures de traités. Le 26 février 1885 prend fin la conférence de Berlin sur l'Afrique, considérée par les Européens comme une terre sans maître. L'immense continent noir est partagé entre plusieurs États européens, sans que les habitants n'aient leur mot à dire. Remontons un peu dans le temps. Une dizaine d'années plus tôt, le roi belge Léopold II a organisé à ses frais une conférence géographique à Bruxelles en vue de faire le point sur l'exploration de l'immense bassin du Congo, ou Zaïre, au centre de l'Afrique équatoriale. Presque aussi vaste que les Indes, il est l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. Le roi songe à rien de moins que de s'approprier et coloniser le territoire considéré comme une terre sans maître. Mais les Français, installés à l'embouchure du Congo, ont aussi de viser sur lui, à commencer par Savonien de Brazza, qui a conclu le 10 septembre 1880 un premier traité avec un chef de la rive droite du fleuve. Plus au sud, les Britanniques et les Portugais sont en bisbille à propos de l'arrière-pays des implantations portugaises d'Angola et du Mozambique. Ces implantations contrarient les projets britanniques de relier le Cap au Caire avec un ensemble continu des colonies. Pour ne rien arranger, les Allemands eux-mêmes commencent à s'intéresser à l'Afrique noire, avant tout pour des questions de prestige. Le 24 février 1884, le Reich place sous sa protection les plantations allemandes du sud-ouest africain. Tout juste deux jours plus tard, le gouvernement de Londres signe avec Lisbonne un traité par lequel il reconnaît la souveraineté du Portugal sur l'embouchure du Congo. Tollé chez les marchands anglais, protestation chez Léopold II. Le 24 avril 1884, le chancelier Bismarck s'entretient de l'Afrique avec l'ambassadeur de France Alphonse Chaudron et pour la première fois évoque une concertation internationale sur le sujet afin de mettre tout le monde d'accord. C'est ainsi que s'ouvre la conférence le samedi 18 novembre 1884. Y participent les représentants des puissances directement concernées par le Congo, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Portugal et tant d'autres. D'emblée, les participants, à commencer par Bismarck, se fixent des nobles objectifs comme le désenclavement du continent africain ou l'éradication de l'esclavage et de la traite musulmane. Le représentant anglais prévient qu'il ne sera plus question de traité du bassin du Niger, domaine réservé de l'Angleterre, que celui du Sénégal, domaine réservé à la France. L'attention se focalise donc sur celui du Congo, pompeusement qualifié par Bismarck du Danube de l'Afrique. La lettre d'invitation à la conférence prévoyant de traiter des nouvelles occupations sur les côtes d'Afrique, les Anglais proposent d'édicter aussi des règles pour l'intérieur. Mais l'ambassadeur de France fait observer que cela reviendrait à un partage de l'Afrique, ce qui n'est pas l'objet de la conférence. Soit 3 mois et demi, l'acte général de la conférence définit les zones de libre-échange dans le bassin du Congo. Il proclame la liberté de navigation sur le grand fleuve africain, le Niger et le Congo. Il arrête aussi quelques principes humanitaires contre la traite des esclaves, ainsi que le commerce de l'alcool et des armes à feu. Enfin et surtout, il reconnaît à Léopold II, roi des Belges, la possession à titre privé d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire. Il sera rebaptisé État indépendant du Congo. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous poursuivons notre émission et même, comme annoncé dans le sommaire, nous parlons de la conférence de Berlin et nous aurons plus de détails avec notre invité. Il s'agit du professeur Bob Bobutaka Bateko. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, je l'ai dit, vous êtes professeur à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa et à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également docteur en sciences de l'information et de la communication, membre du Conseil international des archives et chercheur associé à l'Association internationale de bibliologie basée en France. Est-ce que j'ai oublié autre chose ?
Je crois que c'est l'essentiel.
D'accord. Merci. Alors, nous intéressons aujourd'hui à cette conférence de Berlin. Vous m'avez même dit qu'il y a une différence entre la conférence de Berlin et l'acte de Berlin. Les jeunes aujourd'hui apprennent l'histoire à l'école. Ils ont entendu parler de cette conférence qui s'est tenue à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Mmh. J'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps, puissiez nous parler de cette conférence justement parce que la RDC, on va dire, a occupé une partie importante de cette conférence dans les débats.
Merci madame. En fait, comme élève et étudiant, j'ai entendu parler de cette conférence.
Ok.
Et j'ai essayé de décortiquer le contenu de ces documents.
Et c'est ça, vous parlez de l'acte de Berlin.
L'acte de Berlin.
D'accord.
Qui est en fait le document de consacration de la conférence de Berlin.
Mm-hmm.
Comme, qui a eu lieu, comme vous l'avez si bien, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Et c'est en fait un forum qui a permis le partage de l'Afrique. Il ne faut pas avoir peur de le dire.
Sous l'initiative de Bismarck.
Oui, qui était la... qui dirigeait le pays, qualifié à l'époque de la plus grande puissance de l'époque.
Mm-hmm.
Alors, il y avait des conflits entre plusieurs pays, notamment la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal. Alors, ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait une certaine stratégie pacifique, en fait, de résoudre ces différends. Et il faudrait aussi dire que cette conférence est l'émanation de la conférence de Vienne,
okay,
de 1815. Puisque là, on avait parlé de la colonisation, de la situation de la colonisation en Europe. Mais entre-temps, on devait réfléchir sur comment mettre en place des stratégies de colonisation dans d'autres continents. Mm-hmm. C'est ce qui fait qu'en 1884, on a organisé ce forum.
Mais au début, c'était dans quel but, organiser ce forum ?
Au début, comme je dis, c'était pour résoudre les différends.
Mm-hmm.
Puisqu'il y avait la France qui avait déjà son espace en Afrique,
oui,
la Grande-Bretagne, le Portugal et d'autres puissances. Mais le clou, c'est la situation internationale africaine, donc l'ancêtre de la République démocratique du Congo. Au début, quand Staley, puisqu'il faut commencer par le commencement,
oui,
Livingstone a été envoyé ici et puis à un certain moment, on a perdu des repères. Des repères, et on a envoyé Staley et Livingstone pour les retrouver. Et il se voit en Tanzanie, l'actuelle Tanzanie, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et après ces retrouvailles, Staley a pris soin de rentrer.
Mm-hmm.
Mais en rentrant, il a voulu passer, explorer l'intérieur de ce qu'on appelle l'actuelle RDC.
Mm-hmm.
Ce qui fait qu'avec Tipo Tipo, ils se sont entendus et avec ces gens, ils l'ont amené au niveau de chute de Wagin aujourd'hui. Et puis après, bon, ils se sont séparés puisque Tipo Tipo a dit que l'aventure était difficile. Et Staley a continué. Et il a effectivement exploiter, sinon explorer le fleuve Congo pour arriver vers, sortir vers le bas Congo et aller en Europe. Une fois arrivé en Europe, il contacte le royaume de la Grande-Bretagne pour lui faire la restitution de ce qu'il a connu lors de sa première expédition. Mais malheureusement, il n'a pas eu une suite favorable de la part des Britanniques. Mais entre-temps, comme Léopold II, le roi des Belges, cherchait aussi des colonies, puisque il faut le reconnaître que c'était un monsieur qui tenait à avoir l'espace utile pour améliorer la Belgique, sinon sa Belgique. Alors, il avait ça en tête et il tenait à voir les espaces. Alors, quand il avait appris que Stanley était de retour et qu'il n'avait pas une suite favorable de la part de la Grande-Bretagne, il a envoyé ses émissaires pour contacter Stanley et c'était ça l'aventure. Alors, quand ils se sont vus, après, Leopold II, sous l'instigation de Stanley, pardon, de Banning, puisque Banning c'était le plus grand penseur de Leopold II, c'était un archiviste, un bibliographe, qui avait recommandé à Leopold II de financer une autre expédition que Stanley devrait effectuer cette fois-là en RDC, donc à l'Association internationale africaine, pour avoir les documents qui lui donnent la possession de ces pays. Effectivement, Leopold II a écouté son archiviste et Leopold II a entendu et a accepté ce que Livingstone lui a dit. Il a organisé une deuxième expédition que Stanley a faite ici. Et là, malheureusement, il y a eu des fois, on a tué les vrais chefs pour chef que Stanley voulait qu'il soit chef, pour signer les documents de cession de leur territoire pendant qu'ils ne savaient pas lire. D'après mes recherches, ces documents-là ont permis, effectivement, sinon, ont beaucoup agi au fait que Leopold II devait quand même faire face à certaines puissances de l'époque pour avoir son patrimoine privé qu'on appelait l'Association internationale africaine, qui est devenue après l'Association internationale du Congo et puis est indépendante du Congo.
Alors, professeur, je rappelle à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que vous suivez l'émission Un jour une histoire. Nous sommes avec le professeur Bob Bobutaka. Il est professeur à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, également à l'Université de Kinshasa. Nous sommes avec vous, professeur, en train de parler de la conférence de Berlin. Mais en analysant cette conférence, on se rend compte que le Congo était au cœur même des débats. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier au Congo ?
Oui, d'ailleurs pour d'autres ils disent que c'était la conférence du Congo. Les Allemands préfèrent parler de la conférence du Congo, bon. Mais la formulation c'était la conférence de Berlin. Stanley est rentré et il a présenté la situation. La Grande-Bretagne, comme j'ai dit, ne trouve pas son compte, d'autant plus qu'elle avait déjà beaucoup de terres en Afrique. Mais après examen, ils se sont rendus compte que cette terre-là était tellement riche en flore, en faune, en sous-sol. Et à telle enseigne que les grandes puissances ont dit non, il faudrait qu'on ne peut pas laisser cette terre à Leopold II. Et c'était ça en fait l'idée principale et on a dit non. Mais comment résoudre le problème de la RDC sans pourtant qu'il y ait des tiraillements, des guerres comme nous avons connu à l'époque en Europe? Et de cette façon-là, on a dit bon, créons un contexte pour résoudre tous ces problèmes en rapport avec l'Afrique. Donc, on a fait le partage de l'Afrique sans les Africains, bien sûr. On était avant 1884. Donc, s'il y avait quelques lettrés, c'était dans peut-être l'Afrique occidentale, Sénégal, ainsi de suite. Mais chez nous, il n'y avait personne.
Mais à l'issue justement de cette conférence, on a même parlé de la zone libre-échange. Est-ce exactement ?
Oui, en fait, moi, je préfère le dire franchement que la RDC, c'est la cobaye de la mondialisation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la RDC, à l'époque, était considérée comme l'espace de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pouvait venir ici.
Le bassin du Congo.
Exactement, le bassin du Congo. Et quand j'ai compris l'acte de Berlin, on dit par exemple que un acte de navigation du Congo qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ses fleuves et à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilés. Les principes généraux, et non seulement dans les articles 5, 8, 5, 16 de l'acte de Vienne, stipulent que ces affluents-là n'appartiennent à personne. Et on ne devait même pas payer des taxes ou bien même des douanes, si on pouvait parler de l'expression actuelle.
Mm-hmm.
Donc ça concernait tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, de par le monde, pouvait venir ici
mm-hmm.
et faire tout ce qu'il pouvait faire, d'autant plus que c'était l'espace de la communauté internationale. Et c'est ça ce qui a été dit à la conférence de Berlin.
Mais est-ce que ce n'était pas en même temps un contraste, parce qu'on avait reconnu à Léopold II à l'époque, qui était roi des Belges, la possession des titres des terres?
Non. Quand vous lisez les textes, vous allez voir qu'il n'y avait pas en fait une contradiction, mais c'était une histoire de contextualisation. C'est mmh. vrai que Léopold II avait le pouvoir de diriger cet espace, mais au même moment, Léopold II savait que cet espace appartenait à tout le monde.
Okay.
C'est un peu le problème des droits, c'est pas, même pas seulement les droits, le problème de la Bible. Alors là, il y a le problème d'exégèse, le problème des droits de canoniques, d'interprétation des textes juridiques, et ainsi de suite. Donc,
oui, justement, professeur, mais c'est là que ça perturbe un peu. On se dit, vous êtes responsable d'un territoire, mais en même temps, vous ne le contrôlez pas totalement.
Si, il le contrôle. Il le contrôle d'autant plus que quand, après cet accord-là, puisque c'est à partir de 1885 qu'il lui a été reconnu,
mm-hmm.
La paternité effectivement de cet espace. Donc administrativement c'est Léopold II qui gérait là, tout ça.
D'accord.
Mais en gérant, il savait que les États-Unis pouvaient avoir la même mise sur ça, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, ainsi de suite.
Alors, professeur, vous êtes notre invité. Nous parlons de la conférence de Berlin. Et qui sont ces pays membres, enfin ces pays qui ont participé à l'époque à cette conférence?
Il y avait plusieurs pays.
Oui.
On peut voir, puisque j'ai les documents avec moi ici.
D'accord.
Mais avant de citer ces pays-là, je voudrais quand même dire ce qui m'a tiqué.
Oui, allez-y.
Le premier élément du texte.
D'accord.
Fait allusion à l'Éternel.
C'est-à-dire?
C'est écrit au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, au nom de
Est-ce
Dieu.
Est-ce que vous pouvez lire l'intégralité? Ça va permettre en même temps aux auditeurs, ceux qui n'ont pas pu avoir entré en possession justement de ce texte, qui peuvent avoir aussi une idée.
Ok. Je peux lire, merci. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi de Belge, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le Président de la République française, Sa Majesté la Reine du Royaume de la Grande-Bretagne et de l'Inde, Impératrice des Indes, Sa Majesté Roi d'Italie, Sa Majesté Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté le Roi de Portugal et Algavard, etc. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Ottoman.
Alors en quoi ça vous dérange puisqu'on a même commencé par Dieu? Vous auriez voulu qu'on ne cite pas Dieu, l'Éternel, dans ce texte?
Non, je ne voudrais pas aller dans les débats où des fois on dit, bon, effectivement, l'Église, mm-hmm. la politique, ainsi de suite. Mais on se rend compte qu'ici, on s'est référé à la dimension que l'Église gère, comme les premiers préalables.
Poursuivons toujours avec notre émission en train de parler de la conférence de Berlin. Mm-hmm. Cette fois, nous allons faire un lien avec la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que les résolutions qui ont été prises à cette conférence en 1985, est-ce que ces résolutions ont jusqu'aujourd'hui un impact sur la vie de la République démocratique du Congo, alors qu'à l'époque c'était proclamé État indépendant du Congo?
Oui, merci madame. J'ai essayé de faire une étude légistique et bibliométrique de ce texte,
okay.
pour ne pas parler de la textométrie. En fait, je me suis rendu compte, en exploitant les chapitres, 56% des statistiques de tous les 38 chapitres mm-hmm. de l'acte de Berlin étaient focalisés sur le Congo. Et j'ai fait une autre analyse et je me suis rendu compte, 66% d'éléments exploités dans la conférence de Berlin, c'était sur la RDC. C'est pour dire quoi? Pendant les 3 mois et demi, on a passé presque 2 mois
mm-hmm.
pour réfléchir sur le Congo. Et ça, c'est significatif. Et à l'époque, je me suis rendu compte, mais c'était quand même trop. Donc, nous, on n'était même pas là. Nos ancêtres n'étaient même pas là.
Il n'y avait aucun Congolais qui débattait justement ou qui défendait les intérêts de son pays.
Même pas un Africain.
Mm-hmm.
Mais ils ont pris le temps de réfléchir sur le Congo. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que ces documents ici, l'acte de Berlin, est un document obsolète? Ou bien c'est un document d'actualité? Moi, je dirais que c'est un document d'actualité. Le problème avec les Congolais, nous ne lisons pas. Et c'est extrêmement grave. Il faut lui donner les moyens pour voir. Quand le Congolais est à l'étranger, il fait des merveilles, même ici au pays.
Peut-être que c'est un problème de conditions. Revenons, ça fait un autre débat.
Alors, je disais qu'on a pris le temps à réfléchir sur la RDC. Et maintenant, quelle est la relation que les Congolais peuvent établir entre l'indépendance de ce pays et l'acte de Berlin? Puisque si nous sommes indépendants, c'est par rapport à quelque chose. Mm-hmm. Or, est-ce que nous nous rappelons que c'est l'acte de Berlin qui a institutionnalisé la colonisation de notre pays? Et comment voulez-vous parler de l'indépendance de ce pays sans pour autant maîtriser ce qui a eu lieu pendant cette conférence-là? Mm-hmm. C'est ça le problème. Les 38 articles, est-ce qu'ils ont été déjà décortiqués? Et surtout que je ne voudrais pas parler de l'acte de l'indépendance de la RDC, qui a juste une phrase. Il y aura l'occasion où nous allons explorer ça.
Oui.
Mais quand je vois les 38 articles, et dans les 38 articles, il y a au moins 60% sur la RDC, et je vois un acte de l'indépendance avec une seule phrase, je dis que vraiment c'est une matière de réflexion.
Mm-hmm.
Il y a quand même un problème, nous devons réfléchir. Oui. Comme j'ai dit, les Congolais, on peut être Congolais, puisque nous sommes tous les habitants du Congo, mais il faudrait qu'on... Dans les lots de Congolais qui est des Congologues, ou les gens qui doivent passer le temps réellement à compulser les documents en rapport avec la RDC. Nous avons signé beaucoup de traités. Nous avons signé beaucoup de documents légistiques au niveau international, au niveau régional. Mais les documents, il faut signer, c'est fini. Dans nos administrations, dès qu'un ministre part, c'est fini.
Mm-hmm.
C'est anormal. Il faudrait qu'on arrête cette hémorragie. Le pays, si nous voulons non pas seulement miser sur le développement durable, parce que le développement durable, ce n'est pas seulement l'affaire des ressources. Le développement durable aussi, c'est la postérité, c'est la mémoire. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos arrière petits-fils? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes forts. Mais dans 30 ans, 40 ans, on va commencer à se moquer de nous.
Alors, voilà. Vous pensez jusqu'aujourd'hui que cet acte de Berlin a toujours un impact ou encore continue à avoir des effets, on va dire, actuellement en République démocratique du Congo?
Je dirais oui. Et si je veux dire ça sincèrement, quand j'entends ce qui se dit à travers les médias internationaux, on ne peut pas passer un jour sans pourtant qu'on ait fait allusion à la RDC. Vous allez entendre que tel pays a réagi, X a réagi. Mais quand il s'agit, par exemple, de Mali,
mm-hmm.
mais là, j'entends seulement la France. Mais quand il s'agit de la RDC, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine. Est-ce que si on réfléchit bien, ce n'est pas l'esprit de l'acte de Berlin? Nous devons commencer à réfléchir. C'est notre pays.
Questions.
Puisqu'en fait, mais tout le monde suit comme moi les élections en RDC. Mais c'est une histoire qui intéresse apparemment tout le monde. Au Conseil de sécurité, jamais, je me rappelle, je fais faire une étude à un étudiant Chilumbu, je crois en 2002, à l'Institut supérieur de statistique, de répertorier un peu toutes les résolutions des conseils de sécurité sur la RDC. Mais c'était trop. On dirait que les instances des Nations Unies ont essentiellement comme mission de gérer la RDC.
Mm-hmm.
C'est ça en fait. Et si je vois la mission, la MONUSCO, mais si on peut remonter, vous savez la première mission des Nations Unies ici, c'est la MONUC.
Oui.
Et cette mission a battu les records en termes d'opérationnalisation. On a eu juste moins d'un mois pour mettre en musique cette mission. Or, en réalité, pour réfléchir sur...
Mais en même temps, les activités des Nations Unies en République démocratique du Congo ne datent pas de la MONUC. Il y avait à l'époque la Société des Nations.
Oui, oui. D'ailleurs, le premier drapeau de la RDC, c'est ce qui a donné la matière au drapeau de la Société des Nations.
Okay.
J'ai aussi fait les, j'ai mené des réflexions autour de ça, mais là j'ai exploité plus les réflexions de pacifistes belges, Paul Hotley, qui a travaillé notamment avec Panda Farnana, le premier intellectuel congolais, puisque les gens ont tendance à croire que le premier intellectuel c'est autour de 1960 avec l'Université de Vanium, ou bien ceux qui sont allés en Europe. Non, le premier université congolais c'est Panda Farnana.
Okay.
Donc c'est ça. Le problème ici avec l'acte de Berlin et notamment les missions des Nations Unies en RDC, si je réfléchis froidement, je dis il y a lieu d'établir une corrélation.
Alors pour terminer, professeur, nous tendons pratiquement à la fin de notre entretien. Que retenir justement de cette conférence et surtout de l'acte de Berlin?
C'était le partage de l'Afrique, avec comme centre le Congo. Et ces richesses de la RDC, enfin, RDC aujourd'hui, si on veut, on veut actualiser
le sujet. Était indépendant du Congo à l'époque.
Était indépendant du Congo. Non, pendant la conférence de Berlin, c'était Association internationale du Congo.
Oui, oui, le nom a été donné à l'issue.
Était indépendant du Congo, c'était après.
À l'issue de la conférence.
Effectivement. Ce que je dois dire, nous devons bien lire ces textes. Il faudrait que dans nos organes stratégiques, qu'on arrive à compulser ces documents ici. Nous avons des gens intelligents dans ces pays. Ces questions qu'ils soient encadrées pour réfléchir sur les vrais problèmes de la RDC. Quelqu'un m'a dit que vous, les Congolais, vous êtes trop superficiels. Vous ne connaissez pas les enjeux. J'ai dit non, ce n'est qu'une impression. Notre pays regorge beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Si on peut les fédérer avec une certaine rationalisation, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Cet acte, c'est l'acte créateur de notre pays, et ça a permis qu'il y ait l'organisation de l'indépendance. Donc il faut savoir faire les liens entre l'acte de l'indépendance de la RDC et l'acte de Berlin.
Merci beaucoup, professeur. C'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous et à la prochaine.
Maximum.
C'est par ici également que prend fin cette émission Un jour, une histoire. C'était un plaisir de vous la présenter. Le prochain rendez-vous, c'est bien entendu le week-end prochain. Au micro, Pamela Mounazomoilou. La prise de son était de Mimi Kindou et sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. On se retrouve la semaine prochaine, plutôt le week-end prochain, pour un nouveau numéro.